9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Blondel.
Et dans Culture Média ce matin, on accueille Michel Elchtaninov.
Bonjour Michel Elchtaninov.
Bonjour.
C'est pas facile à prononcer, nous avions deux raisons de vous recevoir aujourd'hui. Tout d'abord parce que vous êtes le rédacteur en chef de Philosophie Magazine mensuel qui existe depuis 2006, donc 14 ans et qui marche très bien. Et également parce que le dossier de couverture proposé dans le dernier numéro, le numéro de mars, concerne beaucoup l'univers des médias et plus encore celui de la culture. Avons-nous besoin d'admirer? Alors comme c'est un mensuel qui traite de philo, j'imagine que la réponse est oui, on a besoin d'admirer, mais attention, mouvement dialectique contraire, il peut y avoir du danger à admirer.
C'est et vous... puis il y a peut-être une troisième partie, attention.
Oui, oui, thèse, antithèse, synthèse, voilà. Vous signez le papier d'ouverture de ce dossier par ces mots. Vous écrivez « Faut-il, pour devenir adulte, cesser un jour d'admirer ? Ce serait dommage, dans cette étrange faculté qui nous décentre et nous élève, vous-même, qui admirez-vous ? »
Vous voyez, en tout cas, il y a une réponse à la fin du papier. Écoutez, je pense que c'est ce qui est bien dans ce dossier, c'est que chacun peut se poser la question.
Oui, mais vous qui admirez-vous ?
Moi, j'admire, j'adore les dissidents. Les dissidents, c'est des gens qui ont le courage, parfois tout seuls, d'aller contre un pouvoir, par exemple à l'époque en Union soviétique ou aujourd'hui en Chine, qui s'opposent à un pouvoir sans armes, à visage découvert, qui prennent des risques. Moi, j'avoue que j'admire énormément les gens courageux. Voilà. Par exemple, donc Vladimir Bukovski, c'est un grand dissident qui est mort il y a pas longtemps. Ben, je l'admire, je l'adore.
Vous citez des exemples très récents parce que c'est ça qui est très intéressant dans votre mensuel, c'est que c'est pas un mensuel hors sol qui ne traite que de Kant et de Descartes. Vous prenez un exemple précis dans l'actualité pour montrer que l'admiration, qui est parfois voulue, peut conduire à des errements, le mot est faible. Exemple, Vanessa Springora qui raconte sa relation amoureuse avec l'écrivain Gabriel Mazneb dans son livre Le Consentement. Et vous dites, en substance, l'admiration peut conduire à des drames.
Oui, en fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, l'admiration, ça nous décentre, ça nous élève, ça nous permet de nous oublier un peu, ce qui est dans une société ultra médiatisée est quand même pas inutile de s'oublier. Mais parfois, on sent qu'il y a des admirations qui peuvent tuer la personne. Qui est en train d'admirer cette adolescente de 13 ans qui tombe amoureuse d'un écrivain de 50 qui semble la manipuler, c'est ce qu'elle raconte dans son livre qui est terrifiant. Mmh. Eh bien, on sent que cette admiration, ensuite, elle est instrumentalisée, que lui, pour lui, c'est une fan, il l'utilise, et donc finalement, elle est un peu broyée par cette admiration, et elle a besoin d'écrire ce livre de désadmiration pour se libérer de ça. Vous voyez, donc l'admiration, parfois, elle peut être dangereuse. Autre chose, parfois, on a envie de remplacer celui qu'on admire. Ouais. Le film Joker, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui admire profondément un comique de stand-up. Au fond, il veut le remplacer, il veut le tuer. Ouais. Donc l'admiration, parfois, elle est trouble.
Et elle va à la haine, ce que vous racontez, vous analysez les ressorts de cette relation. On est dans une mission média. Il y a également une autre facette du sentiment d'admiration que vous traitez dans Philosophie Magazine, c'est l'admiration qui électrise les réseaux sociaux. On voit, par exemple, la popularité de certains influenceurs, certains youtubeurs. L'époque a changé, j'ai une question pour vous. Autrefois, on admirait Lindbergh, qui avait traversé l'Atlantique en avion, ou Camus, prix Nobel de littérature, des figure hors norme. Maintenant, les jeunes, parfois, admirent un type habillé comme eux, qui se filme dans une chambre qui ressemble à la leur, et qui raconte l'histoire du quotidien qui ressemble à leurs histoires. Qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle ?
On est passé d'une grande distance. On admirait des grands hommes ou des grandes femmes, c'est-à-dire des gens qui avaient fait des exploits extraordinaires, avec une certaine distance.
Oui.
Aujourd'hui, c'est vrai que l'influenceur, il est dans sa chambre, il vous ressemble. Donc on est passé de la distance à la familiarité.
Ça, j'ai compris. Mais pourquoi, selon vous ? Est-ce que vous analysez ce phénomène ?
Moi, je crois qu'ils rendent un service énorme, les influenceurs, à ceux qui les regardent et les écoutent, c'est qu'ils donnent du sens à leur quotidien. On a un quotidien qui change tout le temps. Et il y a 20 ans, on ne pouvait pas s'imaginer notre quotidien d'aujourd'hui et on ne sait pas ce qui sera dans 5 ans. Même
il y a 12 ans, l'iPhone n'avait pas été inventé.
Et voilà. Donc du coup, on ne sait pas du tout. Mais les youtubeurs, les influenceurs, ils donnent du sens. C'est-à-dire qu'ils expliquent les petits détails de la vie quotidienne, quel sens on peut leur donner. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de se dire que ce qu'on fait tous les jours, c'est pas des gestes de robot, c'est pas des gestes automatiques, qu'on peut leur donner du sens, de l'humour, de la grâce, de la beauté. Et c'est ce qu'ils font.
Alors, vous interrogez sur le charisme ou l'absence de charisme de certains. C'est Cédric Angelbert, qui est l'auteur de l'article sur les youtubeurs, les influenceurs, qui pose une question. Comment expliquer que ce contre-charisme fondé sur la mise en scène de l'ordinaire suscite un tel engouement ? Et il dit... Il écrit « La réponse est peut-être à aller chercher du côté de Gilles Deleuze ». Et je me suis dit « Waouh !» que vient faire Gilles Deleuze ici? C'est à l'agrégé de philo que je m'adresse.
Gilles Deleuze, il a écrit un livre qui s'appelle « Différence et répétition » et qui montre qu'en fait, il y a une vertu à la répétition. C'est-à-dire qu'on peut dire la répétition, on ne va pas répéter 10 fois la même blague, 10 fois la même chose, on devient quelque chose de mécanique. Eh bien, les influenceurs, comme souvent ils sont dans un comique de répétition, ils sont dans les mêmes mises en scène, ils parlent de choses répétitives qui sont le quotidien, justement, ils donnent du sens à ce qu'il y a de plus petit, de plus misérable en apparence, mais qui peut avoir un sens. Et c'est ça qui est bien, intéressant avec les influenceurs, c'est que même s'ils nous ressemblent, du coup, ils éclairent un peu notre quotidien. Donc, moi, je ne fais pas partie des ronchons qui disent que la jeunesse n'a plus de modèle. Je pense qu'on a des modèles qui sont plus proches. Je pense qu'il y a un risque de manipulation, parce que les influenceurs peuvent nous pousser à acheter certains produits, peuvent nous pousser à adopter certaines idées. Donc, il y a comme toujours, il y a des risques d'aliénation dans l'admiration, mais en même temps, ils donnent du sens à ce qui, parfois, à ce qu'on a du mal à donner. Vous voyez ?
Je vois.
Excusez-moi, j'ai pas fouillé.
C'est pas facile. C'est de la philo. C'est développé sur une 50aine de pages. Et Philosophie Magazine ne se résume pas à cette couverture et ne se résume pas à ce numéro. On en parle avec vous.
Michel Elchaninov est notre invité. Il est rédacteur en chef à Philosophie Magazine. On continue à parler de l'actualité du magazine et de son développement dans un court instant. Sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Philosophie Magazine ce matin avec notre invité Michel Elchaninov, rédacteur en chef du magazine.
Quelle est l'idée de base de Philosophie Magazine ? À lire, c'est pas un mensuel à destination uniquement des cagneux et des profs de philo.
Non, en fait, c'est l'éclairage de l'actualité et des questions tout simplement qu'on se pose aujourd'hui dans notre vie, dans notre monde, mais à partir des outils de la philo. Donc, c'est pas un magazine pour philosophes, c'est un magazine pour tout le monde et qui essaye d'éclairer ce qu'on vit. On vit une époque qui s'accélère, on vit une époque qui va dans tous les sens, on se pose plein de questions parce que tout est en train de changer. Et nous, notre pari, c'est de dire que les philosophes d'avant, c'est-à-dire de l'Antiquité à nos jours, et les philosophes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui travaillent dans leur labo, dans leur fac, ont des choses à dire dans un langage clair pour tout le monde, sur notre monde.
Donc, et qui peuvent éclairer le XXIe siècle, quand bien même était-il né avant l'invention de l'électricité. Alors, il y a beaucoup de clés d'entrée dans ce magazine. Par exemple, il y a la page Divergence. Alors, ce que c'est, vous prenez une question du quotidien et vous donnez les réponses de 4 philosophes. Alors, en l'occurrence, ce mois-ci, les 4 philosophes, c'est Zénon d'Énée, qui a vécu en Grèce 4 siècles avant Jésus-Christ, comme chacun sait, Marcel Mauss, Briand, Baudrillard, le sociologue, qui est mort un peu de temps, et l'historien Georges Vigarello, qui est toujours parmi nous. Et la question du mois, c'est pourquoi faisons-nous du jogging ? En quoi est-ce une question philosophique ?
Parce que c'est des choses qui nous paraissent évidentes. Enfin, évidentes, oui, on va faire du jogging pour se sentir bien.
Oui, mais ça n'existait pas du temps de Zénon d'Énée. C'est ça qui m'a vraiment séduit dans votre question.
C'est ça, on fait un télescopage. C'est-à-dire qu'on se sert de ce que dit Zénon sur... Il prend l'exemple en fait, de quelqu'un qui court en disant qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mouvement. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. Et il prend l'exemple, mais lui, il pense à quelqu'un qui court, tout simplement. Parce qu'en Grèce antique, on courait beaucoup. Il y avait les Jeux Olympiques. Et il donne une réponse. Et donc, nous, on essaie de prendre ce qu'il y a de plus intéressant chez les philosophes du passé. Mais aussi, vous voyez, on prend Georges Vigarello qui est bien
lui, c'est différent parce que c'est un historien aussi du sport et de l'hygiène. Donc, il est plus dans le cœur du sujet. Mais moi, j'ai adoré lire ce qu'en pense Marcel Mauss, que je l'aurais jamais imaginé sur ce terrain-là. C'est juste un exemple que je prends pour nos auditeurs. Tout Philosophie Magazine. Et comme ça, vous allez voir l'enchaînement. On parlait de course. Est-ce que ça marche ? Comment vont les ventes ?
Elles vont très bien. Écoutez, on vend, on a en diffusion payée, on a à peu près 45 000 exemplaires qui sont achetés chaque mois, à la fois pour les abonnés et en vente en kiosque. Donc on va bien.
Vous êtes rentable ?
On est rentable.
C'est ça la question. On dit tellement que les journaux en France, la presse papier est sous perfusion, pas vous.
Non, on est rentable et je crois qu'on est rentable parce que les gens savent qu'on n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mainstream. Ils savent qu'ils vont trouver à chaque mois des idées ou des éclairages qu'ils n'auront pas ailleurs.
Ça fait vraiment plaisir. Hier, on recevait Rock'n'Folk, qui est un journal qui marche très bien, un mensuel. Vous vendez encore plus que Rock'n'Folk et le sujet et la philosophie, c'est quand même plus ardu que le rock'n'roll
aussi.
Donc félicitations. Quelle diversification ! Tous les gens qui viennent, tous les patrons de journaux de Reda qui viennent ont des idées. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire des podcasts ? Vous allez faire un site ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Alors nous, on va rester sur la philo, parce que nous, notre objectif, c'est d'éclairer le monde avec les outils de la philo. Par contre, on va lancer, on a un site internet qu'on va totalement transformer en mai, avec une double approche, à la fois être plus sur l'actualité, mais toujours avec des approches originales, c'est-à-dire avec justement ce que vous dites, des approches qu'on n'attend pas pour éclairer l'actualité, et puis aussi quand même d'être le grand portail de la philo, c'est-à-dire quand vous voulez savoir quelque chose sur Zénon d'Élée ou Platon, vous venez sur le site de Philosophie Magazine. On a aussi une offre pour le monde de l'entreprise, pour tous ces gens qui se posent des questions et légitimes sur le burn-out, les rythmes de travail, l'accélération. Donc on a créé Philonomiste, qui est un site dédié pour le monde de l'entreprise.
Qui est votre public ? Ce sont des CSP+, les catégories socio-professionnelles, CSP+, ou CSP++ ?
Alors on a une partie CSP+, des gens qui ont fait de la philo il y a longtemps, qui se disent « Ah, c'était quand même intéressant », qui ont un peu oublié, pardon. On a... au moins un tiers de jeunes qui soit passent leur bac et on les aide à passer leur bac quand même, soit restent fidèles à Philosophie Magazine parce qu'ils ont bien aimé passer leur bac avec nous. Donc on est quand même une des rares publications avec un public où il y a beaucoup de jeunes.
Et ils ont réussi leur vie, les gens qui lisent Philo Magazine, parce que la pub en quatrième de couverture, c'est entrer dans l'univers banque privée. C'est-à-dire pour avoir une banque privée plutôt qu'une banque normale, il faut avoir beaucoup de zéros à son salaire.
Le point commun, c'est la spéculation philosophique.
C'est vrai. Vous avez une banque privée ou vous avez une banque normale ?
Moi, j'ai une banque normale, mais on a fait aussi de la pub pour les banques coopératives et les mutuelles. Voilà. Donc on est très ouverts.
Moi aussi. Non, mais c'est eux qui choisissent. Vous savez que ce n'est pas vous qui choisissez la pub, c'est la pub qui vous choisit. C'est ça le principe de la publicité. Merci beaucoup, Michel Elfaninoff. Je rappelle que vous êtes rédacteur chef de Philosophie Magazine. Je rappelle la une du numéro de mars. Avons-nous besoin d'admirer ? Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous.